Bonjour et bienvenue pour ce nouvel invité du mercredi sur Tendance Ouest dans la Manche. Les premières rotations d'avions américains de ces 47 d'époque vont commencer à partir de la semaine prochaine à l'aéroport de Cherbourg-Maupertuis pour préparer les commémorations du 6 juin et du débarquement. Pour en parler, nous recevons Arnaud Digard, éditeur, fondateur des éditions National 13. Bonjour Arnaud Digard.
Bonjour.
Alors vous sortez, là, une bande dessinée sur John Steele, le célèbre parachutiste pendu au clocher de Sainte-Mère-Église. D'où vient l'idée de faire une bande dessinée sur ce personnage, qui est d'ailleurs aussi une personne qui a vraiment vécu?
Ah oui, c'est bien un personnage réel. Par contre, c'est un personnage digne d'un roman, puisque il lui est arrivé quand même un épisode à la fois tragique et assez incroyable le 6 juin, puisque il s'est retrouvé accroché, suspendu au clocher de l'église de Sainte-Mère-Église, et c'est ce qui, à travers après le cinéma, il est devenu un personnage iconique et emblématique du débarquement.
C'est vraiment après le cinéma, le jour le plus long, j'imagine, du coup, que le bonhomme est arrivé sur le clocher et que cette histoire s'est racontée, ou c'était toujours un petit peu quand même raconté?
Non, en fait, c'est une histoire qui aurait pu complètement tomber dans l'oubli, et il a fallu, en fait, une lettre envoyée par Cornelius Ryan, donc l'auteur du jour le plus long, qui préparait son roman historique, où il demandait à différents vétérans « Où étiez-vous le 6 juin à minuit ?» Et John Steele lui répond innocemment « Écoutez, moi j'étais accroché au clocher de l'église. » Et là, tout de suite, le romancier a vu ce témoignage incroyable. Donc c'est d'abord sorti en roman historique, et puis ça a été très vite adapté en œuvre cinématographique, et en plus par Hollywood, par Daryl Zanuck, donc un grand réalisateur et producteur de l'époque. Et en fait, cette scène qui fait 2 minutes 30 à peu près dans le film est devenue une scène vraiment anthologique, et qui a marqué les esprits, et qui a rendu célèbre à la fois le personnage et qui a aussi propulsé le village de Sainte-Mère-Église dans la notoriété.
Est-ce qu'il y a entre l'histoire, la légende, est-ce qu'il s'est passé réellement, est-ce qu'il y a parfois des incohérences, ou en tout cas des choses pas forcément vraies qui se racontent?
Ah oui, alors ça c'est sûr, c'est-à-dire qu'on peut pas dire que le jour le plus long est une belle fresque, on va dire, hollywoodienne sur le débarquement. Pour autant, Hollywood s'accorde des arrangements, des adaptations selon le scénario. Et en l'occurrence, il y a pas mal d'irrégularités dans le film, dont notamment la chute de Steele sur le clocher, puisque il est tombé de l'autre côté, côté opposé où se situe aujourd'hui le mannequin. Il a perdu dans sa course son casque. Il a été blessé au pied par un éclat avant d'être sur le clocher. Donc oui, il y a pas mal de choses, de vérités que l'on rétablit d'ailleurs dans la BD.
Cette bande dessinée, justement, elle a un style assez particulier. Comment est-ce que vous l'avez travaillé? Quel style vous avez choisi?
Alors en fait, étant donné que l'histoire de Steele se passe, on va dire l'épisode du clocher se passe dans les années 40, c'est l'âge d'or en fait des comics américains. Et on voulait retrouver ce style de l'âge d'or des comics. Et donc on est allé chercher un auteur, un dessinateur, Thierry Olivier, donc un auteur normand, et un scénariste spécialiste donc des comics américains, qui est aussi un Normand, qui est Jean-Marc Lenet, qui habite à côté de Saint-Lô. Et puis on a été aidé également par le musée Herborn et notamment Eric Belloc pour toute la partie historique.
Et c'est une bande dessinée que vous allez vendre en France, forcément, mais aussi aux États-Unis. On arrive à vendre des comics aux Américains?
Alors ça, c'est un peu la surprise, c'est-à-dire que en général, les Américains ont plutôt tendance à vendre les super-héros à travers le monde, et nous, on a, relevé le challenge de proposer en fait un super-héros américain, John Steele, à des Américains, et effectivement, les Américains ont été séduits par le projet, et un éditeur américain donc va éditer la bande dessinée aux États-Unis et au Canada.
Traduite, du coup.
Évidemment, en américain.
C'est une œuvre qui vient d'ailleurs pas toute seule. Il y a toute une exposition à l'Herborn Museum sur lequel est National 13, et vous avez travaillé pour les comics pendant la guerre. De quoi parle cette exposition?
Alors,
ça commence demain d'ailleurs en plus.
Exactement. Donc à partir de demain, vous avez l'exposition qui démarre au musée Herborn, les comics entrent en guerre. Donc c'est une exposition en fait qui retrace tout le rôle des comics américains durant la Seconde Guerre mondiale. Alors on va dire que les principaux auteurs de comics américains ont commencé commencé en fait à dénoncer très tôt le nazisme, l'impérialisme japonais, bien avant que les États-Unis entrent en guerre en décembre 41. Et ensuite, le gouvernement américain va se rendre compte de l'intérêt et de l'usage des super-héros, justement pour mobiliser en fait tout un pays dans l'effort de guerre. Et en fait, cette exposition retrace toute cette histoire et également toute la fabrication, la conception de la bande dessinée. Et d'ailleurs, j'oubliais de citer également Marion Caratini, qui est aussi qui a participé à la réalisation de la bande dessinée, puisqu'elle a réalisé toute la colorisation.
Vous avez sorti de nombreux ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, la bataille de Normandie. Il y a toujours une envie, une appétence pour ce sujet.
Oui, alors je pense qu'en fait, je fais partie des gamins qui ont vu le jour le plus long dès l'âge de 7-8 ans, et c'est ce qui m'a, je pense, passionné, et c'est pour ça que je voulais faire une BD sur John Steele, parce que il y a quelque chose de particulier en fait dans ce personnage. Je pense qu'il a fait, il a intéressé beaucoup de jeunes à l'histoire. Je dis souvent, c'est les destins en fait qui permettent d'intéresser aussi à l'histoire, et celui de Steele en est un particulier. Et effectivement, on est quand même dans un département qui est très marqué donc par cette histoire du débarquement et de la bataille de Normandie, et ça fait partie évidemment des sujets abordés par les maisons d'édition normandes notamment.
Vous avez aussi de nombreux ouvrages plutôt touristiques. On va commencer un week-end de 4 jours. C'est quoi vous, vos coins peut-être méconnus dans la Manche qu'il faut découvrir et qu'on peut découvrir à travers notamment votre collection Road Trip?
Alors, la Manche, c'est une mosaïque de choses à découvrir, de territoires. C'est vrai, entre la Hague, le Val-de-Serre, le Centre-Manche, le Sud-Manche, la baie du Mont-Saint-Michel. Bon, il y a tellement de choses à découvrir qu'il y a l'embarras du choix. Effectivement, on a sorti donc un road trip château et manoir du Cotentin. Et là, on va dire qu'il y a des trésors à découvrir, des châteaux à la fois qui se visitent, d'autres qui sont privés. Mais j'invite vraiment les Manchois et toutes les personnes extérieures au département à s'intéresser à ce patrimoine qui est vraiment extraordinaire.
Ce lien entre tourisme, patrimoine, histoire, il est logique pour vous ?
Oh ben il est évident, c'est-à-dire que il y a peu de départements qui peuvent s'enorgueillir d'avoir un patrimoine aussi riche, même si c'est vrai qu'une grande partie du territoire a souffert lors des bombardements. Pour autant, il reste un patrimoine très riche et aussi des reliefs et des paysages extraordinaires et surtout très divers.
Merci beaucoup Arnaud Ligard,
éditeur
de la maison d'édition National 13, une interview à retrouver en podcast sur tendanceouest.com, avec donc un livre et plusieurs livres à trouver d'ailleurs sur votre site internet pour la vente, national13.fr j'imagine, pour avoir donc cette bande dessinée John Steele, différents ouvrages pour choisir où est-ce que vous allez se passer ce week-end prolongé dans la Manche, et puis donc l'exposition qui commence à partir de demain à l'Airborne Museum sur les comics qui entrent en guerre. Bon après-midi sur Tendance Ouest.